Nous sommes jeudi, le 21 mars, deuxième jour du printemps. Il est 7h. Le journal avec vous, Faustine Calmel, et la grosse angoisse des salariés franciliens de Castorama et Brico Dépôt.
7 magasins vont fermer en Ile-de-France. Les mauvais résultats en cause, dit le groupe. Les employés ne comprennent pas. Reportage au Castorama de La Défense dans un instant. Leur lycée est plein d'amiante. Des profs et des parents portent plainte à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Ils craignent pour leur santé. Voilà qui est censé faire du bien, justement, à votre santé. Un puits pour transformer le carbone en oxygène a été inauguré hier à Créteil. On vous explique comment ça fonctionne. Dans ce journal aussi, on fera le point sur les candidats à La République En Marche à la mairie de Paris. Nous irons à Levallois dans un restaurant tenu exclusivement par des personnes en situation de handicap mental. Et dans le prochain quart d'heure roman, on vous dévoile cette découverte pas vraiment ragoûtante en Seine-et-Marne.
Un habitant de Varennes-sur-Seine qui a commandé une pizza, une canette, mais dans la canette, il n'y avait pas que du soda. On vous raconte cette histoire complètement folle. J'espère que vous ne serez pas au petit déjeuner. On reviendra aussi sur l'ambiance à l'Olympia. Hier, le concert du groupe Boulevard Désert. Et parmi les spectateurs, un chanteur assis dans la salle. Et il s'est retrouvé sur scène, vous l'entendrez. La météo, deuxième jour du printemps. Et du soleil aujourd'hui. Le point complet à la fin du journal.
France Bleu Paris Matin.
Si vous allez dans votre magasin Castorama, eh bien peut-être va-t-il bientôt baisser le rideau.
Oui, 9 Castorama et Brico Dépôt doivent fermer d'ici la fin de l'année prochaine, dont 7 en région parisienne. 789 postes supprimés dans toute la France. Le groupe Kingfisher met en avant les mauvais résultats financiers, mais à La Défense, les salariés de Castorama ne comprennent pas Maïwenn Bordon.
Marie travaille à Castorama depuis une dizaine d'années. Il y avait bien des rumeurs sur la fermeture du magasin, mais cette fois c'est officiel et elle n'en revient toujours pas.
10 ans dans une même société avec les mêmes collègues, ben voilà, c'est quand même un morceau de sa vie et donc on sait que ce morceau de sa vie va s'arrêter. Donc forcément, ben, Castorama c'est une famille quand même et c'est ce qu'il faut savoir. Et on est heureux de venir le matin voir ses collègues, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, ça ne sera plus le cas, donc on attend de voir.
Le choc est d'autant plus fort que le Castorama de La Défense était un peu une boutique vitrine. Paul aussi encaisse le coup, surtout qu'il y a déjà eu un plan de transformation il y a 2 ans avec 400 emplois supprimés au sein du groupe.
On ne s'y attendait pas. Castorama, La Défense, fait partie d'une référence pour l'ensemble du groupe. C'est un peu l'étendard du groupe. Donc nous, qu'on soit dans la liste des magasins qui vont devoir mettre la clé sous le paillasson, c'est vraiment surprenant de l'apprendre.
Au total, 150 salariés sont concernés par la fermeture de Castorama à La Défense.
Et la liste des magasins qui vont mettre la clé sous la porte est à retrouver sur francebleuparis.fr. Des parents d'élèves et des profs portent plainte à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Ils dénoncent la présence d'amiante au lycée Georges Brassens. Nouvelle étape judiciaire cette fois-ci, après avoir fait valoir leur droit de retrait cet automne. Alexandre Benalla a mis en examen dans 2 nouvelles affaires. L'ancien chargé de sécurité à l'Élysée poursuivi d'abord pour port et détention non autorisée d'armes. On l'avait vu faire un selfie avec un pistolet. Poursuivi également pour violence volontaire en réunion. Cette fois, c'était après l'interpellation d'un couple au Jardin des Plantes à Paris lors des manifestations du 1er mai.
Et puis une première mondiale inaugurée à Créteil hier soir. C'est pour le climat.
Le groupe Suez expérimente un puits de carbone à côté de son usine d'incinération. Une grande colonne qui récupère le carbone pour le transformer en oxygène grâce à des microalgues. Pierre Heurteau, chef de projet, nous explique comment ça marche.
Là, on est sur une expérimentation. Le but, c'est de comprendre comment les algues vont se comporter quand elles sont mises en face, en fait, des fumées d'incinérateur. Donc, dans un premier temps, on va choisir le type d'algues. Donc, on a le choix entre plusieurs types d'algues qui ont différentes capacités à capter le carbone, différentes capacités aussi à se reproduire et à affronter, en fait, la fumée qu'on va leur donner à consommer. Donc, c'est un gros aquarium, c'est vert, parce que c'est des algues chlorophylliennes, et c'est lumineux. Parce que comme c'est des algues chlorophylliennes, elles ont plein de lumière. Donc il faut s'imaginer une grande colonne verte lumineuse dans laquelle les algues poussent. Donc on souffle sous cet aquarium et on fait des bulles. Au cours de l'ascension, la bulle va se décharger en CO2. Le CO2 va passer dans l'eau et de l'eau, les algues vont pouvoir le capter. Donc le gaz qui a traversé la colonne d'algues est débarrassé d'une partie du CO2 et est enrichi en oxygène.
Mais pour l'instant, seule une toute petite partie des 100 000 tonnes de CO2 dégagées par l'usine va être traitée par ce nouveau puits lumineux. La pollution cheval de bataille d'Anne Hidalgo et une reconnaissance ce matin. La maire de Paris classée dans le top 20 des 100 personnalités les plus influentes pour le climat. Classement du réseau Apolitical qui travaille avec la Commission européenne.
Pratiquement 7h05, les militaires de l'opération Sentinelle mobilisés samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes.
Pour la première fois depuis le début de ces manifestations, mi-novembre, le gouvernement va les utiliser pour surveiller les bâtiments officiels. Il espère ainsi libérer des policiers et gendarmes et les rendre plus mobiles face aux casseurs pour le maintien de l'ordre à Paris. Paris, où les candidats La République En Marche pour les municipales se mettent en ordre de campagne. Le parti convoque ce matin les prétendants à l'hôtel de ville. Ils sont 6 déjà déclarés et certains impatients, Nicolas Olivier.
Rien ne sera acté ce matin, dit-on dans l'entourage de Stanislas Guérini, le délégué général du parti. Officiellement, il s'agit juste de faire le point sur les modalités de désignation du candidat. Le député de l'Essonne, Cédric Villani, en course depuis 5 mois.
Les choses se feront en leur temps. Je ne suis pas en train de consulter ma montre chaque jour en me disant quand est-ce que va venir la désignation. Quand je consulte ma montre, c'est pour préparer la campagne.
D'autres sont plus fébriles. Benjamin Griveaux n'attendrait qu'un signal pour quitter le gouvernement et partir en campagne. L'arrivée d'un poids lourd ne fait pas peur au candidat de centre-droit Pierre-Yves Bournazel, qui rappelle qu'à Paris, les favoris...
C'est ceux qui, de Dominique Strauss-Kahn à Jack Lang, en passant par Philippe Séguin, Nathalie Kosciusko-Morizet, ont malheureusement pour eux à chaque fois perdu. Ce qui compte, c'est pas la notoriété, ce qui compte, c'est la sincérité, l'authenticité de l'engagement, c'est la compétence sur les dossiers.
Les tergiversations des partis laissent le champ libre aux autres candidats, comme Gaspard Ganzer qui s'est lancé il y a 8 jours.
À La République En Marche, ailleurs, on parle que de querelles de personnes et d'égo, mais j'ai pas entendu le début d'une idée. Nous, on n'a pas les moyens de l'hôtel de ville ou d'un ministère pour faire campagne. On est les premiers à avoir mis des idées sur la table. Les autres, pour l'instant, ils parlent pas d'idées.
C'est d'ailleurs ce qui inquiète certains marcheurs, tant qu'ils se déchirent pour l'investiture. Difficile d'espérer convaincre les Parisiens.
Et on fera le tour complet des forces en présence pour ces municipales de mars 2020 dans le dossier à 8h moins le quart.
Et puis un restaurant qui laisse sa chance aux personnes en situation de handicap, c'est à Levallois dans les Hauts-de-Seine.
Il s'appelle Andy Saveur, il est inauguré aujourd'hui par la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Ouvert il y a une dizaine de jours, il n'emploie que des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Pour son fondateur Christophe Gerrier, l'objectif c'est de lisser les différences, dit-il, on l'écoute.
Il y en a une qui va avoir plus de mal avec la caisse, elle va être aidée par l'autre personne. Par contre, c'est cette personne qui a peut-être du mal à la caisse, elle sera plus à l'aise pour aller accueillir les gens à l'entrée du restaurant. Et du coup, le fait de pouvoir aider une autre personne du fait de son handicap fait que ça la valorise, quoi. La meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est d'être copié, parce que là, j'estime que ce serait une grande chance pour ces personnes. Il faut savoir quand même que c'est la première discrimination à l'embauche en Europe, et donc le handicap mental et cognitif, hein, bien avant les différences de sexe ou de religion ou de race, hein, c'est vraiment le handicap mental et cognitif. On en parle très peu, et donc on espère vraiment effectivement que ça puisse donner des opportunités à des jeunes et moins jeunes, travailler dans la restauration et dans des restaurants. Donc si des restaurateurs peuvent se dire, bah tiens, pourquoi moi j'en boucherais pas une personne chez moi avec un handicap mental ou cognitif, et ben super.
Le restaurant Andy Saveur est ouvert tous les jours à Levallois de 8h à 19h. Et puis du foot ce soir avec un quart de finale aller de Ligue des Champions. Les filles du PSG se déplacent à Londres. Elles affrontent Chelsea. Coup d'envoi 20h05, heure française, 7h08.